de points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, 48 heures avant le référendum sur la Constitution européenne, deuxième partie de notre émission spéciale sur les grandes étapes de la construction européenne. L'Europe ne peut être tranquille tant que la France n'est pas contente. Victor Hugo. Ans d'histoire. Voici plus de 50 ans que de traité en traité, à Rome, à Maastricht, à Paris, à Bruxelles, à Copenhague ou à Nice, se construit par étapes une Union européenne qui se trouve aujourd'hui au pied du mur. Selon le résultat du vote de dimanche prochain, elle s'arrêtera ou non devant le projet d'une constitution européenne. La dernière étape d'un long processus d'unification qui commençait, nous l'avons vu hier, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec le Conseil de l'Europe, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la tentative avortée d'une Communauté européenne de défense. Mais le 25 mars 1957, à Rome, les six pays fondateurs de la CECA, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, franchissaient une étape beaucoup plus importante de la construction européenne, en créant entre eux un marché commun. Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères français, le jour de la signature du traité de Rome.
Le 25 mars 1957 sera une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe. Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et leur atome vont naître. Ainsi, l'œuvre dont nous franchissons aujourd'hui la deuxième étape, après celle de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, n'aura point pour effet la création, comme certains nous le reprochent, d'une petite Europe isolée, mais sera l'ébauche de la grande Europe qui constitue notre objectif final. Nous savons tous d'ailleurs qu'en agissant comme nous le faisons aujourd'hui, nous travaillons sans doute pour les intérêts matériels de l'Occident, mais aussi pour la paix du monde.
Benjamin Angèle et Jean-Paul Blais, bonjour.
Bonjour.
Ou plutôt rebonjour, puisque avec vous hier, nous avons déjà parlé des premières tentatives de construction européenne, une époque qu'on pourrait qualifier un peu de préhistoire de l'Europe, parce que pour beaucoup, dans les débats d'aujourd'hui, d'ailleurs on le dit souvent, l'Europe a vraiment commencé en 1957 avec ce traité de Rome, ce marché commun, ce discours de Christian Pinault que l'on vient d'entendre en 1957. En quoi peut-on dire, comme il l'a dit, que c'était une date essentielle dans l'histoire de l'Union européenne? En quoi ce traité de Rome, ce marché commun, a-t-il marqué un tournant ou même un début dans l'histoire de l'unification de l'Europe? Benjamin Ancel, Angèle, pardon.
Je crois que ce traité constitue la première vaste organisation politique du continent, autour de règles qui sont relativement démocratiques. Elles l'ont été de plus en plus au fil du temps. Et surtout, on introduit des principes qui sont des principes qui aujourd'hui sont devenus couramment admis, mais qui étaient révolutionnaires à l'époque, comme par exemple la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, la libre prestation de services. Et on crée des véritables politiques communes dans lesquelles on essaie de faire preuve de solidarité. Par exemple, une politique agricole, une politique de transport, et progressivement, on va développer des politiques régionales.
Oui, parce que l'abolition prévue, justement, des barrières douanières, ça peut faire une zone de libre-échange, mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est une politique économique commune, avec un tarif extérieur commun, et surtout une politique économique commune. Une politique... Vous voulez dire quelque chose, Jean-Paul Blais,
oui, sur ce sujet? Je voulais revenir sur la chronologie, qui me paraît importante. Nous avions terminé l'émission d'hier sur l'échec de la CED, 1954, et voici 1957. Or, en 1954, les partisans de la CED utilisaient l'argument selon lequel, si la CED était rejetée, ce serait la fin de l'Europe. Trois ans plus tard, il y a eu le traité de Rome et donc le marché commun. Du même coup, nous pouvons transposer cette chronologie à la situation présente.
Alors, il y a, oui, Benjamin Angèle.
J'objecterai naturellement, amicalement, à Jean-Paul Bled, que 50 ans plus tard, nous n'avons toujours pas d'armée européenne. Donc, on ne se relève pas si facilement des traités.
En tout cas, ce traité de Rome, ce marché commun, je répète encore une fois, c'est un marché commun, c'est l'abolition des frontières, la libre circulation des marchandises. Au fond, c'est une espèce de CECA en plus grand, puisque la CECA ne prévoyait que la libre circulation du charbon et de l'acier. Et là, c'est l'ensemble des produits et une politique commune, notamment en matière agricole. Ce sont aussi de nouvelles institutions, un peu inspirées de celles de la CECA, mais que dont on retrouve le nom aujourd'hui dans l'Union européenne, à commencer par une institution très critiquée, dès le début d'ailleurs, c'est la Commission. Puisque vous y travaillez, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, Benjamin Angèle.
Écoutez, assez curieusement, le système n'est pas sans présenter quelque analogie avec le système bien connu de nos compatriotes. En France, vous avez un gouvernement qui est nommé par le chef de l'État, qui propose la plupart des lois, 95% des lois sont proposées par le gouvernement, c'est rare qu'elles viennent du Parlement, et qui est responsable devant le Parlement, qui peut le révoquer. Et bien, dans le système mis en place, qui est le système que nous connaissons aujourd'hui dans l'Union européenne, nous avons les chefs d'État et de gouvernement qui nomment la Commission. La Commission, ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est une entité politique. Les commissaires sont tous des hommes politiques. Si vous prenez la Commission actuelle, le président est un ancien Premier ministre, vous avez plusieurs anciens Premiers ministres dans le collège, tous sont des anciens ministres. Le commissaire pour lequel je travaille a été pendant plus de 25 ans parlementaire, donc ce sont des hommes politiques très expérimentés. Ce collège de commissaires est responsable devant un Parlement qui est élu depuis 1976 au suffrage universel direct, qui peut le renverser. Et il a la responsabilité, comme le gouvernement français, de proposer les lois, en Europe on appelle ça les règlements et les directives, et de les exécuter. Donc on a un système qui n'est pas sans présenter finalement des analogies, à ceci près naturellement que l'espace public français est plus visible dans la vie quotidienne de nos citoyens que n'est l'espace public européen qui paraît souvent un petit peu lointain.
Alors il y a une assemblée parlementaire qui est aujourd'hui devenue le Parlement européen, qui à l'époque n'était pas encore élu, vous venez de le dire, au suffrage universel. Il y a surtout le Conseil des ministres, des ministres des États membres, à l'époque 6, hein, nous étions en 1957. Et puis alors, 57, c'est la signature du traité de Rome, mais en même temps, on peut se dire que va dire le général de Gaulle, qui est arrivé au pouvoir un an plus tard, en 1958, et dont on connaît l'importance qu'il accorde à l'indépendance. Il faut dire qu'elle n'était pas mise en cause, puisque les décisions se prenaient à l'unanimité, donc chaque pays disposait d'un droit de veto, et l'indépendance était préservée, on ne pouvait pas prendre de décision contre son avis. Alors, de Gaulle accepte ce marché commun, finalement, après avoir hésité. Il était même prêt à accepter la perspective d'une union politique, mais à condition que la France y conserve son indépendance. Il n'est pas question pour lui d'une fédération, ni d'une Europe supranationale, comme il le disait dans une de ses plus célèbres interventions sur l'Europe, le 15 décembre 1965.
Alors vous avez dit, oui, mais l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Vous savez, c'est commode, et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités. Et les réalités ne se traitent pas comme ça. Si nous arrivons à surmonter l'épreuve du marché commun, et j'espère bien que nous le ferons, il faudra reprendre ce que la France a proposé, c'est-à-dire l'organisation d'une coopération politique naissante entre les États de l'Europe occidentale. Bien entendu, cette Europe-là ne sera pas, comme on dit, supranationale. Elle sera comme elle est. Elle commencera par être une coopération. Peut-être qu'après, à force de vivre ensemble, elle deviendra une confédération.
Et c'était le général de Gaulle en décembre 1965 évoquant une coopération et au mieux, en matière politique, une confédération, c'est-à-dire un ensemble d'États gardant chacun son indépendance. On a du mal d'ailleurs à comprendre aujourd'hui pourquoi certains gaullistes pensent que le général de Gaulle, devant le vote de dimanche prochain, aurait signé un projet qui suppose quand même un certain nombre d'abandons de souveraineté. Jean-Paul Bled.
Alors sur le dernier point, peut-être parce que certains servent la mémoire du général de Gaulle et d'autres s'en servent. Mais en ce qui concerne son acceptation du marché commun et du traité de Rome, c'est vrai, c'est vrai. D'abord parce que il a considéré qu'il fallait honorer la parole de la France. C'était une première raison forte.
D'autre part parce qu'elle a trouvé son compte.
Absolument.
L'agricole commune était bonne pour l'agriculture française.
Absolument. Et ce choix de respecter la parole de la France a entraîné des conséquences, et par exemple le plan Pinet-Rueff, n'est-ce pas, la dévaluation du franc et la création du nouveau franc en 1959, parce qu'il fallait mettre la France en état d'entrer réellement dans cet espace et d'en tirer les avantages.
Est-ce qu'on peut dire pour autant, Benjamin Angèle, qu'il était anti-européen, même s'il était contre tout abandon de souveraineté?
C'est une question difficile. Je crois qu'il était un Européen à sa manière, mais que le général de Gaulle était déjà très âgé lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1958. Et d'une certaine manière, l'Europe qu'il avait à l'esprit, c'était plutôt l'Europe de ses années de naissance. C'était l'Europe du 19e siècle, fondamentalement. C'est-à-dire l'Europe du concert européen. Je pense pas que le général de Gaulle ait véritablement saisi la chance historique que constituait la volonté de construire une Europe politique en rapprochant les peuples et en allant au-delà des strictes...
Non, mais on peut les rapprocher tout en préservant leur souveraineté. Là-dessus...
Mais on sort très rapidement des limites lorsqu'on veut préserver l'unanimité à tout prix. Et c'était déjà extrêmement difficile à 6. On imagine aujourd'hui ce que ça serait à 25. Je veux dire, ça fonctionnerait pas, très concrètement. Donc quand on veut construire l'Europe, il faut aller au-delà. Et je pense pas que le général de Gaulle était intellectuellement prêt à cela. Il souhaitait sincèrement... Il était européen, mais l'Europe qu'il souhaitait était différente de celle qu'on a construite.
En tout cas, il va freiner avec lui la construction du marché commun, enfin de l'Union européenne va être freinée avec toutes ces négociations marathon, on se souvient au début des années 60 sur la politique agricole commune, le refus de voir les références à l'OTAN dans un traité. Je vous signale d'ailleurs au passage qu'on trouve encore cette référence à l'OTAN dans l'actuelle constitution européenne, refusant pour la même raison l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun sous prétexte qu'elle serait un cheval de Troie américain. Et puis alors, surtout, on en a beaucoup parlé aussi ces temps-ci, provoquant une politique qui a duré pendant 6 mois, la politique de la chaise vide. Il refusait qu'on puisse admettre, qu'on puisse faire évoluer le fonctionnement de l'Europe vers le système de la majorité dans lequel certains États n'auraient plus de droit de veto. Et c'est la raison pour laquelle, pendant 6 mois, aucun ministre français n'a assisté au Conseil européen entre juin 65 et janvier 66, je crois.
Oui, effectivement, en 1965, le président de la Commission, qui était...
Date du discours, d'ailleurs, qu'on a entendu, justement.
Absolument.
On était en pleine crise.
Tout à fait. Était Walter Hallstein, qui était d'inspiration fédéraliste, et qui voulait, bien sûr, l'application du traité, c'est-à-dire le passage au vote à la majorité. Ceci est parfaitement exact. C'est précisément ce que ne voulait pas le général de Gaulle, considérant que, sur certains points, les intérêts vitaux d'un État peuvent être engagés et il ne peut pas être question de lui imposer une volonté. Et Walter Hallstein voulait utiliser la politique agricole commune pour arriver à ce système, notamment les prélèvements sur les importations.
Enfin, bref, il voulait faire un échange entre la politique agricole commune à laquelle est attachée la France.
Exactement.
Et une concession de sa part. Alors cela dit, c'est quand même le général de Gaulle qui a obtenu gain de cause au bout de 6 mois. On dit beaucoup la politique de la chaise vide, c'est bien gentil, mais c'est pas bien.
L'aboutissement, c'est le compromis de Luxembourg.
Mais ça a marché.
C'est le compromis de Luxembourg.
Ça a marché et effectivement, on a continué à voter à l'unanimité les décisions.
Ce n'est pas une concession, ce que demandait Walter Hallstein. Comme l'a dit Jean-Paul Blatt, c'était l'application d'une disposition qui était déjà prévue dans le traité.
Alors, cela dit, l'Europe a continué, bien entendu. Le général de Gaulle est parti. Georges Pompidou fait entrer la Grande-Bretagne, ce que ne voulait pas de Gaulle, dans le marché commun. Plus tard, il y aura d'autres élargissements. Mais pendant 20 ans, bon, avec quelques progrès, on n'a pas le temps dans cette émission de les détailler, on a l'impression que l'Europe a patiné, qu'elle est restée un organisme purement économique, au fond. Comment expliquer cette espèce de paralysie, en quelque sorte, de l'Europe, qui ne progresse plus beaucoup dans le domaine des institutions, Benjamin Angèle?
Je trouve votre jugement un petit peu cruel. D'abord, avec l'arrivée de Pompidou, il y a eu une tentative de relance importante et une première tentative de créer une union économique et monétaire, alors qui est bien oublié aujourd'hui.
Mais qui a échoué.
Qui a échoué pour cause de crise économique. Mmh. Enfin, la volonté politique était là, ce qui est nouveau. Il y a eu aussi, avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, une relance importante de la construction politique de l'Europe. C'est là qu'on a décidé, par exemple, que le Parlement européen devait être élu au suffrage universel direct, ce qui est, pour un démocrate, naturellement, une percée importante. C'est là aussi qu'on a créé le Conseil européen, qu'on a créé le système monétaire européen, qui va permettre d'évoluer progressivement vers la monnaie unique. On a vu également, dans les années 70, certaines politiques se développer fortement, comme par exemple la politique de coopération humanitaire. C'est là qu'on a signé les fameux accords de Lomé, où on supprimait les droits de douane sur les importations importations industrielles et sur une partie des importations agricoles avec une soixantaine de pays africains, de manière à les aider à s'enrichir, à se développer. Donc c'est peut-être pas une phase aussi enthousiasmante, parce que c'est pas la phase des pères fondateurs où il faut tout créer et tout mettre en place, mais de là à dire qu'il ne s'est rien passé, ce serait quand même un peu cruel comme jugement.
Non, mais c'est l'argument, justement, qu'ont invoqué notamment ceux qui ont obtenu le résultat, enfin un traité qui va être une date considérable tout de même dans l'histoire de la construction européenne, puisqu'on considère que c'est le deuxième traité en importance après celui de Rome, c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, France Inter, Jean-Luc Hesse, le 7 février 1992.
Bonjour. L'accord de Maastricht, les ministres européens ratifient le traité négocié en décembre dernier. La suite appartiendra aux parlements nationaux.
France Inter.
De Maastricht, Quentin Dickinson.
Mission accomplie pour le sommet de Maastricht. Les Européens auront leur banque centrale et ensuite leur monnaie commune au plus tard le 1er janvier 1999. Et l'Europe, première puissance commerciale du monde, deviendra aussi du coup la première puissance monétaire. La nuit dernière ici est sans doute née une super communauté européenne. Il faudra s'habituer à son nom, l'Union européenne.
Et c'est évidemment Beethoven, l'hymne européen, à l'occasion de la signature de ce deuxième grand traité de l'Union européenne, qui prenait ce nom d'ailleurs à ce moment-là, c'est à Maastricht que ça a été décidé, on l'a entendu, fini le marché commun. Pourquoi peut-on dire que c'est effectivement un traité tellement important, aussi important pratiquement que celui de Rome, Benjamin Angel? En quoi d'abord? Quel est son contenu? Il faut le rappeler parce que on entend beaucoup parler en ce moment de tous les traités, Nice, Amsterdam, Rome, etc., sans jamais que l'on sache très bien ce qui s'y est produit. Qu'est-ce qu'il a de nouveau?
Voilà, il y a plusieurs éléments. Le principal, c'est à Maastricht qu'on a décidé la création d'une monnaie unique. Alors cette monnaie unique, c'est naturellement pas la baguette magique à tous nos problèmes économiques, mais c'est un instrument, par exemple, pour nous protéger du risque de change. Il faut se souvenir qu'entre 92-95, on a connu des crises de change très graves avec des dévaluations de 20-30% des monnaies italiennes, espagnoles, portugaises. Ce qui pour nos exportateurs, pour nos entreprises qui commerçaient avec ces pays, pouvait être dramatique parfois. C'est un instrument pour supprimer les frais de conversion et puis c'est un instrument aussi pour nous garantir durablement des taux d'intérêt très bas. Et puis surtout, c'était un symbole politique très puissant parce qu'avoir une monnaie unique entre tous les États participants, c'était la première fois qu'en termes symboliques, l'Europe atteignait le noyau dur de la souveraineté. Un des grands symboles de la souveraineté. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pas intellectuel que ça représente. Alors, on trouve aussi d'autres éléments dans Maastricht, comme par exemple la mise en place d'un embryon de politique étrangère et de sécurité commune, avec la désignation d'un haut représentant pour la sécurité et pour la politique étrangère et la sécurité. On trouve aussi des progrès importants dans la constitution d'un espace de coopération judiciaire et pénale européen qui n'existait pas auparavant.
Il y a un élargissement aussi de domaines de compétences de marché commun. Oui, Jean-Paul.
Oui, alors je voulais simplement dire que évidemment la création de la monnaie unique est un point essentiel, mais je ne porterai pas le même jugement positif parce que il me semble que à la monnaie unique est lié le pacte de stabilité qui a été arrêté dans ses modalités au Conseil de Dublin, pacte de stabilité qui s'est révélé être un carcan et qui finit par plomber les économies de la plupart des pays qui sont dans cette zone, alors qu'on voit des pays qui sont à l'extérieur de cette zone, comme le Royaume-Uni qui n'a pas fait ce choix, qui se portent beaucoup mieux que l'économie française ou l'économie allemande.
On leur impose, effectivement, avoir disposer cette monnaie unique, on leur impose des critères de convergence
extrêmement stricts.
Oui, extrêmement stricts. Et qui sont critiqués aujourd'hui. Oui.
Je ne peux pas ne pas réagir.
Angèle, vous ne pouvez pas ne pas réagir. Alors réagissez.
Sur ces questions, donc je ne peux pas ne pas réagir. Il faut tout d'abord rappeler que ce fameux 3% de déficit dont on cite à toutes les sauces, ça paraît pas beaucoup 3%, mais ça correspond à une situation, par exemple, où l'État français dépense en permanence 20% de plus qu'il ne gagne. Quelle entreprise, quel particulier pourrait vivre durablement avec un tel ratio? Je veux dire, l'argent des déficits, il tombe pas du ciel. Un jour ou l'autre, il tombe de la poche du contribuable. Donc la seule chose qu'on demande, c'est une gestion en bon père de famille des finances publiques. Quant à l'exemple britannique qui est cité par M. Bled, moi, je pourrais citer l'exemple espagnol. Voilà un pays qui a un plein boom économique depuis l'entrée dans l'euro, ou l'Irlande qui se porte aussi à merveille. Donc on peut choisir tous les exemples dans un sens ou dans l'autre.
En tout cas, après Maastricht, l'Europe continue de s'élargir. Elle passe de 15 à 25 membres, ce qui va nécessiter bien sûr une refonte des institutions prévues par le traité de Nice, mais qui va plus loin encore avec la création d'une convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing et chargée d'élaborer un projet de constitution européenne qui était présenté il y a 2 ans à Athènes par un Valéry Giscard d'Estaing qui commençait son intervention en grec le 20 juin 2003.
Chromeda gas politia, que onoma mendia tomi es oligou.
Notre régime est appelé démocratie parce que le pouvoir est exercé par la majorité et non par une minorité. C'est par cette citation de Thucydide, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, que Valéry Giscard d'Estaing a remis tout à l'heure le grand livre du projet de constitution de l'Europe.
L'Europe, ça n'est pas uniquement un objet ou un sujet pour des spécialistes ou pour des diplomates. L'Europe, c'est une œuvre des citoyens. Et donc ce que je souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'on donne aussitôt que possible aux Européens la Constitution qu'ils attendent maintenant.
Et c'est ce qui va se produire en France dimanche prochain, mais peut-être pas tout à fait comme le souhaitait Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'en 2003, les sondages indiquaient que la majeure partie des Français y étaient favorables à cette Constitution. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors on peut se demander pour quelles raisons. Est-ce la conjoncture économique et sociale, les délocalisations, des problèmes de politique intérieure, la complexité du traité, le souci de préserver l'indépendance de la France? Vous-même, vous allez voter oui, Benjamin Ancel, et vous allez voter non, hein, Jean-Paul Bled. Quelles sont les raisons de votre vote, Jean-Paul Bled, d'abord en votant non?
Non, d'abord, la mise sur les rails d'un super État. La supériorité de la loi européenne sur la loi nationale, avec d'ailleurs l'aboutissement de rendre caduque la Constitution française. Ça, c'est une première série de raisons. La seconde série de raisons tiennent à la politique étrangère, avec la mise sur les rails d'un système qui programme à terme la fin de la politique étrangère française, d'une politique étrangère française indépendante, et la perte programmée, voire le rapport lâché, du siège de membre de permanent au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que si cette constitution avait été appliquée aussi 2 ans, le président de la République française n'aurait pas pu mener la politique qui a été la sienne dans l'affaire irakienne, et Dominique de Villepin n'aurait pas pu tenir le discours qui a été le sien et qui a été applaudi, on s'en souvient, au Conseil de sécurité.
Et enfin, le tout. Oui, et qu'il aurait pu le faire.
Oui, bien sûr, parce qu'il ne peut pas dire le contraire. Mais en réalité, à cette époque, la majorité des États européens étaient hostiles à la politique française et allemande, et il y a un article de la Constitution qui prévoit que dans ce cas, eh bien, rien ne doit être fait pour gêner l'expression d'une politique étrangère européenne.
Et vous alors, Benjamin Angel, vous votez oui, pourquoi? S'il y avait une raison.
Alors pas pour un super État européen, d'ailleurs avec 1% du PIB comme budget, ça serait difficile, c'est 40 fois moins en proportion que le budget de la France. Mais parce que je crois que cette constitution va apporter un cadre plus démocratique. Par exemple, le choix du président de la Commission va tenir compte du résultat des élections du Parlement européen. Parce que les parlements nationaux vont avoir un rôle qui est beaucoup plus fort. Ils vont participer au contrôle de la subsidiarité, c'est-à-dire vérifier que lorsqu'on agit au niveau européen, on a bien raison de le faire, qu'il ne vaut pas mieux le faire sur le plan national. Parce que cette constitution aussi va renforcer le poids des grands États dans la décision, et je pense que c'est nécessaire pour l'équilibre démocratique, parce qu'elle va donner plus de pouvoir au Parlement européen, qui est érigé de façon quasiment systématique en co-législateur, c'est-à-dire à égalité avec le Conseil, et parce qu'elle donne aux citoyens un droit original de pétition. Je pense par ailleurs qu'il est important de garder à l'esprit que cette constitution va renforcer le poids de l'Europe sur la scène internationale en lui donnant les moyens de s'affirmer dans le monde. On aura un président des conseils européens stable, c'est-à-dire quelqu'un qui va présider le conseil des chefs d'État et de gouvernement pendant 2 ans et demi, et un ministre des Affaires étrangères. Alors le ministre des Affaires étrangères, c'est pas une baguette magique, parce qu'il ne pourra naturellement exprimer que des positions lorsqu'elles sont communes c'est-à-dire lorsqu'on se met d'accord. Dans l'affaire irakienne que citait M. Bled, ça n'aurait pas changé grand-chose, objectivement. Parce que quand vous avez la moitié des États qui soutiennent l'intervention et l'autre qui s'y oppose, on n'aurait pas pu se mettre d'accord. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais quand on se met d'accord, on aura la possibilité de peser et de négocier d'égal à égal avec les États-Unis. Et ça, c'est une avancée majeure.
On a entendu au tout début de cette émission cette citation de Victor Hugo, « L'Europe ne peut être tranquille tant que la France n'est pas contente ». Qu'est-ce qui se passerait en Europe et pour l'Europe, pour les étapes que nous avons vues avec vous aujourd'hui et hier, si la France n'était pas contente au point de voter non? Est-ce que ce serait la dernière étape de la construction européenne, Benjamin Angèle?
Je ne crois pas à la fin de l'histoire, donc la construction européenne ne s'arrêterait pas là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait une crise politique, que ces crises politiques seraient durables, donc il y aura plusieurs années de turbulences, que ces crises politiques seraient par ailleurs de nature à aggraver la crise économique que nous connaissons, parce qu'on n'a jamais vu une crise politique nourrir la confiance des consommateurs.
Alors, je ne crois pas qu'une crise catastrophique soit sur le point d'éclater. D'abord parce que le nom français sera suivi d'autres noms.
Vous parlez au futur déjà. Parlons au conditionnel, c'est dans deux jours.
Oui. Et puis, l'histoire nous enseigne, je le disais tout à l'heure, 1954, 1957, là où on nous prédisait la fin de l'Europe à l'époque, on a eu trois ans plus tard le traité de Rome. Donc, ça ne sera certainement pas la fin de l'Europe, mais ça peut être l'occasion de repenser l'Europe sur des bases nouvelles.
Merci Benjamin Angèle et Jean-Paul Bled. Je rappelle Benjamin Angèle que vous êtes donc l'auteur avec Jacques Lafitte de L'Europe, petite histoire d'une grande idée qui vient d'être rééditée chez Gallimard dans les collections Découvertes. Et Jean-Paul Bled, vous êtes rédacteur en chef de la revue mensuelle L'Indépendance. Hier j'ai dit L'Indépendance, c'est L'Indépendance. Vous avez pu entendre, je rappelle aussi que la revue Historia, qui sort aujourd'hui, sort un long dossier à l'histoire de l'Europe. Beaucoup d'autres références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tesser, Sandra Escamez, ainsi qu'à la réalisatrice Anne Tobilac. Bonne semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un des plus grands écrivains du XXe siècle, Louis Aragon avec Pierre Dex. Mardi, l'émission initialement prévue mardi dernier sur Raymond VI le Qatar avec Dominique Baudis. Mercredi, l'Égypte grecque et romaine. Jeudi, un aspect peu connu de la vie d'un dictateur, Hitler et les femmes. Et enfin, vendredi, la découverte et l'exploration d'une des régions les plus fascinantes et mystérieuses du monde, l'Amazonie. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.